J'aimerais qu'on prenne un passage dans Hébreux. Hébreux, chapitre 1, et nous allons lire les versets 1 à 3. Hébreux 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Quelle belle introduction pour une lettre. C'est vraiment magnifique, hein. Et on peut dire que l'Épître aux Hébreux, c'est comme une perle. Il y en a plein, hein. Mais une perle dans le Nouveau Testament. On ne sait pas avec certitude quel est l'auteur. Voilà, il y a des petites choses qui nous laissent penser, peut-être ce serait Paul, mais il n'y a rien de sûr. Mais ce n'est pas là l'important. C'est une épître qui est riche à la fois théologiquement, mais aussi spirituellement, et qui est en parfaite harmonie avec tout l'ensemble du Nouveau Testament. Même l'épître vient confirmer plein de choses dans Romains, dans Galates et dans d'autres épîtres. Et on y voit Jésus-Christ au-dessus de tous et de tout. Il y est élevé en tant que Dieu et en tant que souverain sacrificateur. Dans toutes les épîtres, quand vous le lisez, il est le souverain sacrificateur dans les lieux célestes. Et j'aimerais qu'on regarde Jésus ce matin. Il est notre pain spirituel. Maintenant, quelle est la place de Jésus? Quelle est la place de Jésus dans la vie de chacun? Quelle place prend-il? Quelle place lui donnons-nous? Est-ce que c'est simplement un personnage important du passé? Ou bien est-ce que Jésus exerce quand même une certaine influence sur nous, de par sa vie exemplaire? Ou bien Jésus est la pièce maîtresse de notre vie? Il est le centre, il est le soutien, il est l'appui de notre foi, l'ancre de notre âme. Et on va voir précisément, par cette introduction, la place, l'importance de la place de Jésus-Christ. Alors d'abord, l'auteur débute avec ses premiers mots, verset 1, il dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » Et Dieu parle, Dieu parle. Dieu parle, Dieu est vivant, il nous parle, ou il cherche plutôt à nous parler, parce qu'on n'est pas toujours très attentif pour recevoir ce qu'il veut nous dire, mais Dieu nous parle. Dieu, on le sait, il nous a d'abord parlé par la création. Il a parlé, quand vous voyez cette belle création qui est autour de nous, on a planté des tournesols dans le jardin. C'est beau, une grande fleur avec un jaune éclatant là. C'est magnifique et c'est juste voilà une petite œuvre de Dieu qui nous parle de lui au travers des formes, des couleurs, des senteurs, des textures, des sons, des réflexions même. Dieu parle, la nature parle et Dieu nous parle de lui, il nous parle de sa perfection, il nous parle de sa puissance, il nous parle de lui-même. Mais comme le texte nous le dit, il a aussi parlé aux Juifs du passé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et le fait que l'auteur dise « après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières », cela souligne le fait que Dieu essaie sans cesse de nous parler. Il a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Il essaie de parler à l'homme sans cesse. Certaines personnes pensent que Dieu est silencieux ou mystérieux, inaccessible. Certains disent qu'ils sont agnostiques. Donc là, c'est privatis, gnostique de gnosis, la connaissance. Donc sans connaissance, impossible de connaître Dieu. On ne peut pas le connaître, peut-être, mais impossible de le connaître. Et donc ça ne sert même pas à chercher à comprendre, puisque voilà, il est insaisissable. Mais Dieu a parlé. Dieu parle. Et il parle encore. Mais qui veut l'écouter? Qui veut ouvrir son cœur? C'est ça la question. Verset 2. Il dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Dieu a choisi de nous parler maintenant par le Fils. Autrefois, c'était par les prophètes. Maintenant, depuis 2000 ans, c'est par le Fils. Et la révélation du Fils de Dieu par les Écritures, par la Bible, elle est suffisante. On aimerait, si Dieu existe, comme certains le disent, que Dieu se montre du haut des cieux, qu'il descende, qu'on le voit. Ben, il est descendu, il est venu, il s'est montré. Et Dieu parle encore par Jésus-Christ. Il parle par la bonne nouvelle de Jésus-Christ, par son message, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Et ce message, eh bien, parcourt encore le monde et continue à parler pour qui veut être attentif, ouvrir son oreille. Dieu parle, il parle encore, c'est indéniable. Mais il y a beaucoup de bruit dans ce monde. Plein de bruit, hein, si bien que parfois ça devient difficile de l'entendre. C'est aussi pour cela que Dieu permet parfois la souffrance, les épreuves, les difficultés. On vit des choses qui sont difficiles, des temps de solitude. Dieu le permet parfois simplement parce que nous n'arrivons plus à entendre. Et Dieu a besoin de capter notre attention. Jésus a raconté la parabole du semeur, vous vous souvenez ? Le semeur qui jette la semence, hein ? La semence étant une image de la parole de Dieu. Et puis, il y a une partie de la semence qui tombe dans les épines. Image des soucis de la vie. Image de voilà, l'attrait des richesses. La séduction des richesses. Trop de choses, trop de bruit. On n'entend plus dans le brouhaha quotidien. Est-ce qu'on veut être attentif et écouter, entendre Jésus-Christ ? Dieu nous parle par le Fils. Alors, on va voir maintenant que la place du Fils, elle est primordiale, elle est essentielle, vitale. Si on veut être éclairé au sujet de Dieu, il n'y a qu'un nom à retenir, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que de la place que nous lui accordons, eh bien, dépend toute chose. Ça dépend notre vie, dépend nos plans, nos futurs, notre futur, notre avenir, notre éternité. Et tout dans le passage nous le montre. Jésus est le cœur, il est au centre, il est celui de qui dépend toute chose et de qui nous sommes. Regardez d'abord verset 2, il dit « Dieu nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toute chose, par lui il a aussi créé l'univers ». Et on voit ici que tout vient du Fils et tout va au Fils. Tout vient de lui, tout va vers lui. D'abord, Dieu a créé l'univers par Jésus-Christ. Et le terme univers ici, littéralement, c'est les mondes. Jésus a créé les mondes. En fait, il a créé notre monde terrestre, il a créé le monde céleste, il a créé toutes choses. Donc le Fils est à l'origine des mondes, à l'origine de notre monde. On ne va pas le prendre, mais dans Jean 1, le prologue, vous connaissez ce prologue, il nous dit « Toutes choses ont été faites par elle, la parole, Jésus-Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Rien. Tout vient de lui. Tout. Jésus a fait la terre, il a fait les roches, il a fait les éléments physiques, l'oxygène, les gaz, il a fait l'eau dont tout dépend, il a créé la vie, il a créé les cellules avec toute leur complexité, il a établi aussi toutes les lois qui régissent cette vie, il a fait les plantes, il a fait le règne animal. Ça semble rien quand on le dit en une phrase. Et quand vous lisez la Genèse, toute la création est dans deux chapitres. Deux petits chapitres. Voilà. Ça semble rien. Mais l'homme n'a pas fini d'essayer de comprendre la complexité du monde dans lequel il vit. Il est sans cesse en train d'essayer de comprendre. Et plus on cherche, plus on découvre qu'on ne sait rien. Au début, quand la science a débuté, ça semblait très simple. Et puis plus on avance, plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué. Quelqu'un a dit, les faits scientifiquement démontrés restent immuables. Mais leur explication varie avec les progrès de la connaissance. L'atome, jadis miracle de simplicité, est devenu miracle de complexité. Au départ, c'était simple. Et maintenant, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pensait. Et quand on avance un petit peu, on se dit, mais il y a une intelligence supérieure qui a établi ces lois, ces règles, et toute cette complexité, tous ces processus. Maintenant, on plonge dans l'infiniment petit, et on ne parvient pas à en faire le tour. On découvre à chaque fois une nouvelle zone jusque laquelle nous n'étions pas allés jusqu'à à présent. Pareil, on étudie l'infiniment grand, et on essaye d'aller aux confins de l'univers, en tout cas aux confins de ce que l'on peut appréhender avec notre technologie, et on ne finit jamais. On n'y arrive pas. David n'avait rien de toute cette connaissance, et il a écrit un psaume, et dans ce psaume, par la foi, il imagine cette complexité, et il dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Voilà. Qu'est-ce qu'il dirait David en voyant aujourd'hui la science, hein? Lui avait la sagesse de dire cela. La création nous dépasse et Jésus-Christ en est l'auteur. Jésus était au commencement avec Dieu, il était Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Regardez Colossiens 1, 15 à 17. Il est dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Verset 16 nous dit que Jésus est avant toute chose et toutes choses ont été créées par lui. Il est donc à l'origine de tout. Tout vient du Fils. Et encore, nous ne pouvons étudier que notre création. Mais on ne sait rien finalement du monde céleste. Qu'est-ce qui régit, hein? Quelles sont ses lois? On ne sait pas, on n'en sait rien. Jésus a aussi créé les esprits, les anges. Il a créé tout cela. Les choses visibles et invisibles. Et cette expression « en lui ont été créées toutes choses » est révélatrice de la manière dont cela s'est passé. Dieu le Père est bien entendu le Créateur, il est Créateur, Dieu le Père. Mais le Père a créé au travers du Fils, il a créé par le Fils, en lui. Tout est en quelque sorte sorti des mains du Fils par la volonté du Père. Et donc le Père a donné au Fils de créer notre monde. Quand on pense à Jésus, on pense à, on dit Jésus, on pense à l'homme de Nazareth, le charpentier, qui faisait du bien, allant partout. Mais on devrait penser au fait qu'il est bien plus qu'un homme. Il est Dieu. Il est Dieu. Il a fait toutes choses. Dieu a opéré toutes choses par sa puissance créatrice. Et donc le Fils est au même titre que le Père créateur. Et Jésus n'est pas simplement à l'origine, mais il est aussi le but de la création. Tout va au Fils, tout lui appartient parce que c'est pour lui que sont toutes choses. C'est ce que dit le verset 2 encore. Il est écrit que Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Qu'est-ce qu'un héritier? Qu'est-ce que l'héritage? L'héritier, c'est celui qui va tout recevoir. L'héritage, eh bien, c'est tout ce qu'il a créé, toute cette création. Tout lui est destiné. Et Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme d'homme. Il a pris une forme de serviteur. Et il s'est humilié encore plus bas, puisqu'il est mort. Et plus bas encore, puisqu'il est mort d'une mort infâme. Il est mort sur la croix. Mais Dieu, eh bien, ensuite, l'a souverainement élevé et l'a établi héritier de toutes choses. La fin de toutes choses est pour Jésus-Christ. On a lu en Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Donc les mondes physiques, spirituels, angéliques sont destinés pour Jésus-Christ. C'est pour lui. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, il y a une phrase qui revient deux fois, des termes semblables deux fois. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. L'alpha, c'est la première lettre, on va dire, du langage. Hein. Et l'oméga, c'est la dernière lettre. Et là, le langage, c'est ce qui permet de tout concevoir, hein, de tout exprimer, de donner existence à toute chose. Il est l'alpha et l'oméga. Il est au commencement, il est la parole. Et Jésus englobe tout parce qu'il est à la naissance de tout. Il est ensuite le premier puisqu'il était là avant que le monde soit. Il est le dernier dans le sens où il est au-dessus de tous. Et il est le commencement et la fin. Il est la finalité de toute chose. Il est la raison d'être de toute chose. Je lisais quelque chose, c'était la lettre d'amour du Père. Vous connaissez ça? C'est un bel écrit. Hein. Et dedans, je lisais à quelqu'un et il disait en référence à un psaume, « Tu n'es pas une erreur. » Nous ne sommes pas une erreur. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Hein. Nous ne sommes pas là sans raison. Nous existons parce que Dieu l'a voulu. Nous existons pour lui. Il est notre raison d'être. Tout vient de lui, tout va vers lui. Verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. Le reflet de sa gloire. Et le terme reflet, ça vient de... Enfin, il y a plusieurs sens, c'est rayonner, resplendir, irradier. Il est le reflet de sa gloire. Le Fils reflète, rayonne, irradie la gloire du Père. Mais qu'est-ce que la gloire? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? On peut dire que la gloire de Dieu, c'est la beauté de l'Esprit de Dieu. C'est la beauté qui émane de son caractère, de lui-même, de tout son être, dans ses attributs. Dieu est beau. Dieu est beau. Il est magnifique en sainteté, en bonté, en justice, en droiture, en vérité, en humilité, en perfection. Dieu est merveilleux. Merveilleux. Et sa gloire, eh bien, c'est l'ensemble de sa personne éternelle. C'est ce qu'il est dans sa nature divine. Jésus a dit à Marthe, devant le tombeau, hein, vous vous souvenez, il y avait son frère qui était mort, Lazare. Il lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça voulait dire, si tu crois, tu verras Dieu. Tu le verras se manifester. Tu verras sa puissance qui va saisir ton frère. Tu verras sa perfection. Tu verras sa miséricorde. Tu verras sa compassion, sa bonté à ton égard, à l'égard de ton frère. Si tu crois, tu verras Dieu. Tu verras sa gloire. Et Marthe a vu la gloire de Dieu par la résurrection de son frère. Et Jésus, qui était avec elle, reflétait et resplendissait cette gloire divine par son caractère. Lorsque vous lisez, lorsque vous écoutez, lorsque vous étudiez la parole et vous étudiez Jésus-Christ, vous voyez Dieu. C'est Dieu qui est devant vous, c'est Dieu que vous entendez. Et vous voyez sa beauté. Le Fils est le reflet de sa gloire, dans son caractère, sa puissance, ses attributs. Il nous renvoie l'image du Père, on l'a lu tout à l'heure. Il est l'image du Père, comme un miroir. Le Fils est l'empreinte de sa personne, c'est-à-dire la marque. Il est la marque ou l'expression exacte de sa personne. Le Fils est l'expression exacte de sa personne. Il est la reproduction précise en tout point de Dieu le Père. J'ai ma sœur qui vient de partir aux États-Unis là. Alors je le sais, je ne l'ai pas eu depuis, hein, mais elle a dû se plier, contrôle des douanes, et là-bas, hop, on prend l'empreinte maintenant, hein, même l'iris. Hein. Donc, on prend l'empreinte, et l'empreinte, ben, c'est exact. Hein. C'est l'image exacte. L'image parfaite d'une chose. Et si on regarde Jésus-Christ, on voit Dieu le Père. C'est lui. C'est lui. Il n'y a aucune différence entre Christ et le Père. Il s'agit de Dieu et Dieu. Dieu le Fils, Dieu le Père. C'est pour cela que Jésus a dit à Philippe qui lui demandait, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Et Jésus qui lui dit, « Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Voilà. Jésus est le reflet du Père. On voit sa gloire. Les deux n'en font qu'un, et le Fils est la parfaite empreinte du Père. Paul le dit d'une autre manière, puisqu'il dit « En Jésus habite corporellement toute la divinité ». Et donc on peut dire « Toute la divinité est visible par le Fils ». C'est Dieu. Dieu en chair. Ensuite, verset 3, on le reprend, le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Jésus-Christ soutient l'univers en ce moment. Qu'est-ce que c'est une loi physique ? Une loi physique, c'est une règle immuable parce que Dieu en a décidé ainsi. Alors, eh bien, voilà. Ça se reproduit tout le temps. On lâche un objet, il tombe tout le temps. Mais que se passerait-il si Dieu changeait les règles, si Dieu changeait les lois de la pression, de l'attraction, la poussée d'Archimède, la relativité, etc. Le monde ne peut exister que parce qu'il y a des lois qui sont immuables, qui ne bougent pas. En 2012, un vent de panique souffle sur la communauté scientifique. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont fait une expérience, ça s'appelait l'opération Opéra. Alors c'était une expérience destinée à observer et étudier le phénomène d'oscillation des neutrinos. Qu'est-ce que les neutrinos ? J'en sais rien. Enfin, ce que je crois comprendre, c'est que c'est des particules dans l'infiniment petit. Voilà, bon, ils sont en train d'étudier cela. Et les scientifiques ont vu une accélération des neutrinos dans leur expérience. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que ça allait à l'encontre de toutes les lois de la physique qu'ils connaissaient jusqu'à présent. 240 articles ont été écrits, voilà, tout était bouleversé, la communauté était ébranlée. Finalement, c'était dû à une mauvaise connexion entre un câble et une carte électronique. Ouf, ça va. Les lois sont les lois. Elles ne bougent pas. Mais si les lois sont immuables, c'est que Jésus-Christ soutient toute chose. Il soutient ces lois par sa parole puissante. Si Jésus ne portait pas l'univers, s'il lâchait en renversant les lois, tout se détruirait, tout se désagrégerait. Ça exploserait, ça disparaîtrait. Nous ne serions plus. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, concrètement, aujourd'hui ? Ça signifie que toute vie existe et est soutenue par le Fils. Je vis et j'existe. Maintenant, je respire par le Fils. Uniquement par le Fils. Ma vie dépend en ce moment même de lui, de sa personne. C'est lui qui tient la vie, c'est lui qui tient le souffle et l'être de chacun sur cette terre. Il soutient notre existence et nous porte de par lui-même parce qu'il en a décidé ainsi. On a lu tout à l'heure dans Colossiens, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ça subsiste en lui, par lui. Alors qu'en est-il de celui qui n'a aucun égard à Jésus, celui qui s'en fiche de Jésus ? Il ne croit pas en Jésus, il ne veut pas croire en lui. Qu'en est-il de lui ? Eh bien, pour lui aussi, hein, sa vie est entre les mains de Jésus. Et sa vie, elle tient à un fil. Et s'il vit, c'est par la grâce. Parce que Dieu est bon pour les méchants et pour les ingrats. Il est bon. Pourquoi certains vivent un drame et une personne juste à côté, elle y échappe ? Certains, vous savez, ils se posent cette question tous les jours. Ils se la posent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu, ils ont vécu quelque chose qui les a saisis. Par exemple, en 2014, il y a eu le crash du vol Mi-17 en Ukraine. Vous vous souvenez de cet avion qui a été explosé en vol, hein ? Un homme n'arrivait pas à avoir sa place pour être avec sa femme et son enfant qui embarquaient sur ce vol. Il insistait pour être avec sa femme et son enfant, et puis on lui dit « Non, c'est pas possible, monsieur, prenez un autre vol. » Il a dit « Bon, j'annule celui de ma femme et de mon enfant, et on va prendre le vol du soir. » Et puis, il y a eu le crash. Il y a échappé avec sa famille. Mais d'autres n'ont pas eu la même chance. En 2009, lorsqu'il y a eu ce vol d'Air France, vous savez, qui revenait d'Amérique du Sud, qui s'est crashé au milieu de l'Atlantique, un couple rate l'avion de peu. Ils auraient dû partir normalement sur ce vol, mais bon voilà, alors ils prennent un vol pour Munich. Et en arrivant à Munich, ils entendent la catastrophe qui est arrivée. Merci Seigneur. Mais ils louent une voiture pour rejoindre l'Italie. Ils font un accident. La dame décède. 64 ans. Et on se dit, mais pourquoi ? On n'a pas d'explication. Si ce n'est que Dieu décide de l'existence de chacun. Il décide de la vie et de sa fin. Toute vie est tenue, soutenue par le Fils de Dieu lui-même. C'est ce que dit un psaume. David dit, « Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Et Dieu accorde un temps, un nombre de jours à chacun. Et c'est dans ce temps-là qu'il faut choisir. Il faut choisir de se repentir. Choisir de croire au Fils de Dieu. Choisir de se convertir à Jésus-Christ. Pourquoi la place du Fils de Dieu est encore importante dans notre vie ? Verset 3, parce qu'il a fait la purification des péchés. Il a fait la purification des péchés. Le Fils a fait cette purification. Pour une bonne part, c'est le sujet de l'Épître aux Hébreux. Quand vous lisez tout l'Épître, hein, ça occupe beaucoup de chapitres. On y voit Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Dieu a donné sa loi aux Juifs dans l'Ancien Testament, et entre autres choses, ils devaient pratiquer ces sacrifices d'animaux. Pourquoi ? Pour que Dieu couvre les péchés, pour qu'il les cache en quelque sorte. Voilà, il y avait les péchés. Dieu, à chaque sacrifice, couvrait les péchés. Il ne regardait plus le péché. Il n'était pas encore réellement pardonné. Mais il ne le regardait plus jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et donc, il fallait une vie sacrifiée. Il fallait qu'une vie innocente coule, que le sang coule, pour que le pécheur puisse être mis de côté, pardonné. Mais regardez ce que dit Hébreux 10, verset 4. Il est dit, Hébreux 10, verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et le sang d'une bête, d'un animal, ne pouvait pas réellement effacer la culpabilité de l'homme. Impossible que le sang des animaux ôte réellement les péchés. Alors Jésus a dit, voici je viens, voici je viens. Et il est descendu à la fois pour être le sacrifice, il a donné sa vie sur la croix, et en même temps pour être le sacrificateur, puisqu'il est entré dans le lieu saint, très saint, céleste, pour présenter son propre sang et faire l'expiation de nos péchés. Jésus a donc fait la purification des péchés. Tout est pardonné grâce au Fils de Dieu. Et l'homme n'a pas toujours conscience de son péché. Il ne s'estime pas pécheur, ou il se déculpabilise en disant, quand même, hein, je regarde mon voisin, il a fait bien pire que moi. Et donc, voilà. Plaise à Dieu de montrer à chacun la réalité de son péché. Plaise à Dieu de lui montrer que nous sommes pécheurs en réalité. Et sans le Fils de Dieu, sans la foi, sans la repentance, impossible d'obtenir le pardon. Tout est pardonné uniquement grâce au Fils de Dieu. Nous avons besoin de lui. Sinon, Dieu n'est pas accessible. Jésus-Christ seul. Ensuite, verset 3, Jésus s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est monté au ciel et il nous a ouvert le ciel par son sacrifice. Jésus est à la droite du Père. Et maintenant, il intercède pour nous. Il plaide en notre faveur. Il prend notre défense. Et il nous accorde le droit de nous approcher du trône du Père. Le droit d'être auprès du Père. Personne ne peut s'approcher impunément de Dieu, d'un Dieu saint, d'un Dieu pur et sans péché. Mais Jésus nous a ouvert le ciel. C'est lui qui nous introduit maintenant auprès du Père. Regardez Hébreux 4 et versets 14 à 16. Puisque nous avons un grand saint, souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et maintenant, nous pouvons nous approcher avec assurance de ce trône. Et ce n'est pas un trône de jugement, c'est un trône de grâce. Quel bonheur, un trône de grâce. Le Père et le Fils sont sur le trône et ils nous sont favorables. Ils nous sont propices. Parce que Jésus est mort pour nous, parce qu'il compatit à nos faiblesses. Il nous connaît, il sait nos faiblesses. Il sait, lui aussi, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il connaît la faiblesse humaine. Alors il nous prend en compassion, il nous aime. Et il nous appelle à nous approcher du trône de Dieu afin d'obtenir miséricorde si nous sommes tombés et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, pour être relevés, sauvés, délivrés. Alors quelle est la place que nous laissons au Fils dans notre vie ? Tout accès au trône de Dieu n'est possible que par Jésus-Christ. Et on voit dans cette introduction de l'Épître aux Hébreux que Jésus n'est pas accessoire, il n'est pas optionnel ou remplaçable. Jésus n'est pas juste l'avant-dernier prophète. Non. Jésus n'est pas non plus un super-ange qui est descendu et qui est mort pour nos péchés. Non. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, Dieu, en fait il dit ego et mi. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je suis Dieu, nul ne vient au Père que par moi. Et quand on touche à la personne de Jésus-Christ pour la diminuer, l'abaisser, la bafouer, la rejeter, ou simplement lui dire non, on se ferme l'accès à Dieu. La porte du ciel est fermée. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Alors on entend parfois dire, oh l'important c'est de croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Non, l'important ce n'est pas de croire en Dieu. L'important c'est de croire en Jésus-Christ. Tout dépend de Jésus-Christ. S'attacher à lui, vivre de sa vie. Pourquoi ? Parce que tout vient du Fils. Il est l'origine, mais il est aussi la finalité de toute chose. Ensuite, parce que toute la divinité est visible dans le Fils. Il est Dieu en chair. Et si on veut voir Dieu, on ne peut pas le voir ailleurs. Il est là. Parce que toute vie existe, toute vie est soutenue par le Fils. Je dépends de lui. Mon souffle, ma vie, mon existence, je dépends de lui. Parce que tout est pardonné uniquement par le Fils. Pas de pardon ailleurs. Pas de pardon. Parce que tout accès au trône de Dieu n'est possible enfin que par lui. Par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors quelle place a Jésus-Christ ? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas toujours garde. Dieu a dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Et c'est à chacun de s'examiner soi-même. Est-ce que j'ai le Fils ? Est-ce que j'ai reçu le Fils ? On va prier. Seigneur, merci. Merci, tu es beau, comme le dit ta parole. Tu es admirable. Quel est ton nom ? Il est merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus faisait toutes choses à merveille. Tu es parfait, magnifique en sainteté. Et Seigneur, nous t'adorons. parce que nous te connaissons. Le monde ne te voit pas, mais nous, nous te voyons et nous t'adorons. Seigneur, par grâce, s'il te plaît, révèle-toi à ceux qui ne te voient pas. Touche leur cœur, montre-leur leur misère, leur péché, montre-leur leur besoin de toi. Que la grâce se déploie, que Jésus-Christ éclaire et sauve encore des pécheurs, s'il te plaît. Et Seigneur, si quelqu'un ne te connaissait pas ici, eh bien, sauve-le. Révèle-toi à lui et sauve-le, qu'il t'accepte par la foi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.